Antoine Michel.
En Valais, la situation reste sous haute surveillance dans le Lechental, 3 jours après l'éboulement qui a recouvert le village de Blatten. La vallée demeure sous la menace d'une vague torrentielle. Bloquée par la masse de roches et de glace, la rivière Lanza a formé un lac qui pourrait descendre d'un coup en une vague torrentielle. Le cours d'eau s'écoule depuis hier sur le cône d'Ebouli. La rivière se déverse en aval dans le réservoir du barrage de Verdun qui avait été vidé par précaution. Le Conseil d'État genevois a nommé hier une administration provisoire à Vernier, la deuxième ville du canton, n'a pas d'autorité politique, car les résultats des dernières élections sont contestés devant la justice, après des soupçons de fraude électorale. La commune sera donc gérée temporairement par les 3 conseillers administratifs sortants. Nouveau droit de douane de Donald Trump. Le président américain a annoncé hier un doublement de la surtaxe sur l'acier importé aux États-Unis. Cette surtaxe va passer de 25 à 50%. Objectif affiché, protéger le secteur de l'acier américain. Quant à l'ancien président américain Joe Biden, atteint d'un cancer de la prostate, il affirme se sentir bien et optimiste pour l'avenir. C'est ce qu'a assuré le démocrate de 82 ans hier à la presse dans une première déclaration publique depuis l'annonce de sa maladie le 18 mai. Le Royaume-Uni bannit ce week-end les cigarettes électroniques jetables. L'interdiction entre en vigueur ce dimanche. La Belgique et la France prohibent déjà la commercialisation de ces produits accusés de rendre les jeunes accros à la nicotine et de nuire à l'environnement. En Suisse, le Parlement discute d'une telle interdiction déjà en vigueur dans plusieurs cantons. Finale de la Ligue des Champions ce soir. L'Inter Milan et le Paris Saint-Germain vont s'affronter à Munich. Yann Sommer tient l'occasion de couronner sa carrière. Le gardien suisse de 36 ans est l'un des hommes clés des Nerazzurri qui espère décrocher un 4e sacre européen après ceux de 1964, 65 et 2010. Quant aux Parisiens, ils chassent toujours le rêve de leur premier titre au sommet de l'Europe. Météo, un ciel dans l'ensemble dégagé cette nuit et du soleil ce matin avec quelques voiles nuageux en altitude. Cumulus en montagne l'après-midi, averses et orages isolés sur le Jura et les Préalpes. Des averses qui pourront éventuellement déborder en plaine. Température comprise entre 13 et 30 degrés sur le plateau.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
À 8h ce matin, une centaine de gendarmes ont investi la commune d'Olon, accompagnés de chiens policiers, pour permettre aux géologues mandatés par la CEDRA d'effectuer les travaux.
Avec le podcast 1001 Archives, revivez des moments de l'histoire suisse. 1001 Archives, à écouter sur l'application Play RTS, rts.ch/audio, Spotify, Apple Podcast et la plupart des plateformes d'écoute.
RTS Première. Comme une lueur dans la nuit.
Quartier Livre.
Salut Hélène.
Ah, salut Nicolas. Oh mais attends, t'es en train de dessiner?
Bah ouais, tu vois, j'ai été tellement impressionné par notre rencontre avec la BDaste américaine Emile Ferris que j'ai voulu essayer, moi aussi, de dessiner au stylo bille.
Ah, fais voir.
Bah, écoute, c'est pas encore fini.
Ah, c'est génial.
Ah bon? Tu trouves?
Bah ouais, franchement, il y a vraiment quelque chose. Regarde les oreilles, la bouche, l'expression, la posture, c'est vraiment bluffant.
Oh bah c'est sympa. Bah tu vois, je tâtonne. Hein.
Non mais attends, t'as vraiment un talent Nicolas, je sais pas comment t'as fait, mais cet autoportrait, c'est vraiment toi.
Quoi, mais attends, en fait c'est pas du tout un autoportrait. Non, je voulais faire comme elle, représenter un monstre horrible, repoussant.
Ah! Ah bah écoute, ça veut juste dire qu'elle a raison, Emile Ferris. On a toutes et tous quelque chose de monstrueux en nous.
Ah ouais. Ouais, ouais, ça doit être ça. Mais j'avoue que je sais pas trop quoi faire de cette info.
Une émission peut-être ?
Savez-vous où sont les livres ?
Il y a quelqu'un dans la bibliothèque ?
Quartier Livre, Hélène Schters, Nicolas Julliard. Oh, ne vous pressez pas, j'ai la passion des livres.
Vous entrez dans la réserve naturelle des bouquins. Quartier Livre.
C'est un livre qui a pris tout le monde par surprise. En 2017, à Bordeaux, une maison d'édition indépendante spécialisée dans la littérature anglo-saxonne et la fantasy publie un ovni graphique. Une bande dessinée colossale de plus de 400 pages, toute dessinée à l'aide de stylos bi sur des carnets lignés. Le roman graphique s'intitule « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres ». Il est l'œuvre d'une parfaite inconnue de 55 ans, l'américaine Emil Ferris. Et ce livre devient en quelques mois un phénomène dans le monde de l'édition des deux côtés de l'Atlantique. Le succès public et critique est immense. Les stars de la BD américaine comme Art Spiegelman ou Chris Ware saluent le génie de son autrice et le Festival d'Angoulême lui décerne son Fauve d'or en 2019. 7 ans plus tard, à la fin de 2024, Emil Ferris livre le second tome de cette étrange autofiction consacrée aux monstres qui peuplent notre imaginaire et notre histoire commune. L'autrice était l'invitée du Festival du Livre de Paris en avril dernier, l'occasion pour Quartier Livre de la rencontrer. On vous avait proposé dans une émission consacrée au festival un extrait de cet entretien, mais il restait beaucoup de choses à vous faire entendre dans ce dialogue passionnant avec une femme hors norme, et c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui de découvrir en votre compagnie. Hélène Ichters, bonjour.
Bonjour Nicolas Gilliard.
On va dialoguer autour de cette rencontre mémorable. Et puis, vous nous offrirez aussi une carte blanche où il sera question du sujet de prédilection d'Emil Ferris.
Oui, absolument. Les monstres, quelle est leur origine et ont-ils une utilité?
On verra ça dans un instant. Parmi les gentils monstres au chevet de cette émission, il y a John Hasselbacher à la réalisation, Bastien Arnold à la programmation musicale, Angelo pour la traduction et Bastien Testori à la diffusion. Rendez-vous avec un nouveau monstre sacré du 9e art, aujourd'hui dans Quartier Livre. N'ayez pas peur, suivez-nous.
Quartier Livre, Hélène Ichters. Nicolas Julliard.
This is my snack food.
Oh,
what it's crazy.
Is it?
It's cloves.
Oh, wow.
But they're really good for you.
Yeah, I know.
I love eating them. Yeah. I know it's crazy, but you're welcome. Have some. It will be crazy.
So you just chew them?
I just chew them.
It's very
and they're good for your brain.
Voilà, on vous fait entrer dans les coulisses de cette interview. On entend ici Emil Ferris, avec votre voix également Hélène, Emil Ferris qui nous proposait de goûter à un petit snack plutôt insolite, mais très bon pour le cerveau.
Oui, absolument, des clous de girofle. Emil Ferris en a un paquet entier, peut-être 1 kilo, je ne sais pas. Elle affirme qu'on n'en trouvera jamais de meilleur. Je vous vois refuser poliment, Nicolas, mais moi qui assiste seulement à l'interview à ce moment-là, eh bien j'ose en prendre une poignée, dont je fourre immédiatement la moitié dans ma bouche, n'ayant peur de rien, bien évidemment. Alors pendant que je me dis que j'aurais mieux fait de jouer la carte de l'humilité, l'intensité du clou de girofle me fait presque tourner la tête. Et avec ça, je suis quasi certaine que je ne tomberai pas du tout malade de toute l'année.
Voilà pour une première approche qui remue les sens, qui est assez à l'image de sa personne, Hélène.
Oui, car rien, absolument rien ne peut préparer à une rencontre avec Emil Ferris. Alors d'abord, on est intimidé par la taille titanesque de son travail, à la fois dans le poids et la taille, mais surtout le fait d'imaginer la quantité d'heures consacrées au maniement mirmécien c'est un du stylo bi 4 couleurs. Voir Emil Ferris, c'est encore autre chose. Nous la retrouvons dans le patio d'un petit hôtel parisien. Les murs orange foncé de la cour abritent quelques arbres et un merle sautillant place le rendez-vous sous les meilleurs auspices. Le journaliste précédent termine son interview, prend congé de l'artiste et elle vient nous accueillir. Appuyée sur la canne sans laquelle elle ne peut se déplacer, un magnifique morceau de bois torsadé qu'on imagine pouvoir jeter des sorts à tout moment, Emil Ferris nous accompagne vers une table basse. Pendant que vous vous préparez à l'interviewer, Nicolas, moi, je l'observe. Alors on dirait que sa masse de cheveux gris noir a elle aussi été dessinée patiemment au stylo bi. Il y a plein de poussière, il y a plein de graines dedans, on ne sait pas trop. Ses mains aussi sont magnifiques, ornées de bagues d'argent, et ses ongles portent des traces de je ne sais quelle potion, peut-être du henné, ou peut-être des cerneaux de noix, impossible de savoir. Nous partageons une cigarette, elle nous dit que les gens qui fument sont de bonnes personnes, elle nous parle aussi de son conjoint, Kurt, et de comment elle a réussi à soigner son pied qui devait être amputé, rien qu'avec des cataplasmes naturels.
Oui. Anecdote incroyable. Alors on va consacrer cette émission à une grande interview réalisée début avril au Festival du Livre de Paris, interview avec l'autrice américaine Emil Ferris, qui a publié fin 2024 aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture, le second tome de son immense saga graphique « Moi ce que j'aime c'est les monstres ». Emil Ferris a eu de graves soucis de santé, on va en reparler, ce qui ne l'empêche pas de voyager, de traverser l'Atlantique pour aller à la rencontre de ses lectrices et lecteurs. Je lui ai demandé si cela lui tenait particulièrement à cœur d'accompagner autant que possible les versions étrangère de son roman graphique.
Absolutely. I have incredible joy and gratitude.
Absolument.
For the reading.
J'éprouve une joie et une gratitude incroyables en voyant que mon travail est lu par de nombreuses personnes dans d'autres pays du monde.
Incredible translator.
En France, j'ai un traducteur génial.
Of course.
Et bien sûr, les éditions Tous en ouverture, Dominique Borde, est une personne très singulière. C'est un éditeur qui s'intéresse à tous les aspects d'un projet. Et il a mis beaucoup de son cœur à s'assurer que cette version, en particulier la deuxième partie, soit aussi parfaite que possible. Il y a de nouvelles pages qui ne sont même pas dans la version anglaise et qui étaient appropriées pour cette version. Donc oui, c'est une grande joie.
French-speaking people absolutely
les Français adorent les bandes dessinées.
And I love that.
Et j'aime ça chez eux. Ils ont une passion pour les livres.
Nothing could be closer to my
heart. Rien ne me touche plus que de sortir un dimanche et de voir une famille se rendre dans une librairie et chaque enfant marcher fièrement avec un livre à la main. Pour moi, c'est une partie de la culture française qui est si belle et j'espère qu'elle ne se perdra pas. Je ferai n'importe quoi pour la soutenir. C'est donc une évidence pour moi d'être ici et de soutenir cela. Et oui, franchement, juste d'en profiter.
Alors moi, personnellement, je n'ai pas le livre sous le bras parce qu'il est volumineux et lourd. Est-ce que pour vous, c'était clair dès le départ que le livre lui-même serait une sorte de monstre ?
Si j'étais honnête, et Nicolas, je veux être honnête avec vous, j'ai dit à mon premier éditeur, The Other Press, que je pouvais faire un roman graphique. Et je n'avais jamais fait de roman graphique auparavant. Mais lorsqu'on m'a demandé si je pouvais le faire, j'ai répondu « mais bien sûr !» J'ai dit oui. Et c'était un mensonge complet. Je n'étais absolument pas sûre d'en être capable. Et je recommanderais ce mensonge. Essayez de faire des choses que vous ne pensez pas savoir faire. J'ai travaillé aussi dur que possible et j'ai appris sur le tas. J'ai commis des erreurs. Et vous savez, j'ai beaucoup appris de ces erreurs. Donc oui, le livre est devenu de plus en plus gros parce que j'ai réalisé que Karen avait beaucoup de choses à dire. L'histoire m'a emmenée dans des endroits sombres et je me suis permise d'y aller. À l'origine, il devait faire 150 pages, je crois, et puis 4 ans plus tard, il faisait 400 pages. Et ce n'est pas grave, c'est ce qui devait arriver.
Alors ce livre partiellement autobiographique raconte l'histoire du point de vue d'une enfant, Karen Reyes, qui a 10 ans. Elle vit dans un quartier pauvre de Chicago dans les années 60. Elle adore dessiner et elle va mener l'enquête sur l'assassinat de sa voisine, Anka Silverberg, dont on apprend au fil du temps le destin tragique, rescapée de la Shoah, contrainte à la prostitution. Est-ce que le fait que ce soit une enfant qui raconte a été déterminant dans le choix du médium, le stylo à billes et les cahiers d'écoliers lignés ?
That's a great question.
C'est exactement ça. C'est une super question. Je me souviens du moment où, quand j'étais enfant, nous étions très, très pauvres, jusqu'à l'âge de 7 ans. Mes parents étaient tous deux artistes. Nous vivions dans un immeuble qui était rempli de gens modestes. Avant d'aller à l'école, on recevait un cahier et des stylos. Et c'était merveilleux. C'était comme si ce cahier était juste pour moi. Je veux dire, il est vierge et je peux y mettre ce que je veux. Je sais, on est censé mettre ce qu'ils veulent qu'on y mette. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait. J'y ai mis ce que je voulais. J'ai raconté mon histoire d'enfant. Je sais qu'il y a des lignes, mais je n'ai pas laissé cela devenir une prison pour moi. J'ai dessiné par-dessus les lignes pour que ce ne soit pas ma prison. L'an dernier, Deez m'a emmené au musée de Détroit, l'Art Institute. Et un des plus chouettes tableaux qu'on y a vu, c'est celui-là. Là. Le cauchemar de Heinrich Füssli, qui date de 1781. D'après Deez, c'est rempli de symboles et c'est du romantisme. Mais ça ressemble pas du tout au roman à l'eau de rose de maman. Il y a une dame évanouie dans le tableau, comme sur ses couvertures, mais la créature monstrueuse assise sur elle a l'air bien plus fun et plus intelligente et respectueuse que ces abrutis tout en muscles qui déchirent les chemisiers des dames sur les livres de maman. Mon frère dit qu'il est sexy, ce tableau. Il dit qu'on peut y voir la première couverture de bande dessinée d'horreur de l'histoire. Et si on considère comme en maths que néné plus monstre égale horreur, alors oui, il a sûrement raison. D'après Dees, c'est ce tableau qui a inspiré l'un des premiers écrivains d'épouvante, Mary Shelley, lorsqu'elle a écrit Frankenstein. On est resté longtemps devant, je crois franchement qu'il prenait son pied à le regarder. Il a dit « Ce canasson, un vrai voyeur !» Ce qui est dégueu. Je ne sais pas pourquoi, mais devant le chef-d'œuvre de Fuseli, j'ai pensé à Anka. Parfois, elle se met à crier en pleine nuit et son mari descend pour s'excuser. Il dit « C'est qu'un mauvais rêve !» Mais quand je regarde le tableau, je vois ce couvre-lit qui ressemble à du sang et les coutures du matelas, on dirait les côtes saillantes d'un cadavre. Bon, bien sûr, le démon, c'est un souci, mais quelque chose d'autre, dans son passé, torture la dame du tableau.
Quartier livre.
Émile Faris, vous avez choisi donc le stylo bille et le carnet ligné comme principaux outils et supports pour vos dessins. Est-ce qu'il y a une manière de dire par là que dessiner, c'est à la portée de tout le monde, dans un petit carnet, avec un petit stylo qu'on aurait sous la main, ça ne coûte pas cher? Et puis d'autre part, est-ce qu'il y aurait aussi une façon de dire que dans les carnets d'école, les cahiers d'école ou les livres dans lesquels on a eu si souvent envie de gribouiller au lieu d'être attentif à un cours, il y a là quelque chose qui a de la valeur et peut-être les prémices d'une vocation de dessinateur, dessinatrice, d'illustratrice, d'illustrateur?
Absolutely.
Tout à fait.
I think that's a really important point.
Je pense que c'est un point très important que vous soulevez.
As we're going forward, we have created these
Au fur et à mesure que nous avançons, nous avons créé des caractérisations telles que neurodivergents. Mais nous savons qu'en réalité, les enfants sont visuels et qu'ils le sont de plus en plus à mesure que nous avançons. Parce qu'ils ont ces téléphones, ils ont des écrans et des ordinateurs. Et ils sont capables de parler visuellement. Ils peuvent dessiner. La plupart des adultes, si vous leur parlez sérieusement, vous diront « Il fut un temps où j'aimais dessiner, mais j'ai arrêté. J'aimerais beaucoup que ça change. J'aimerais beaucoup que les adultes achètent un cahier. Et qu'est-ce que ça coûte? Peut-être $1, 1 euro pour acheter un cahier, avoir des stylos et pouvoir faire ses propres dessins. Et si tous les soirs vous dessiniez quelque chose? Et si le matin au réveil, vous dessiniez une chose tirée d'un rêve. Dessinez la chose que vous avez vue dans le rêve et écrivez juste ce que vous avez vu. Je veux dire, une vie doit être documentée. Votre âme a besoin de documents. Il est très précieux de revenir en arrière. C'est un peu comme un grimoire de revenir en arrière et de tourner les pages de cette archive. Et regardez où vous étiez il y a 2 ans. Je veux dire, comme il serait précieux pour vous aujourd'hui, après avoir traversé par exemple la pandémie, à quel point serait-il utile de se remémorer ces jours de peur et d'inquiétude où l'on essayait peut-être de résoudre des problèmes que l'on n'avait jamais résolus auparavant et de se remémorer les rêves que l'on avait à l'époque. Je pense donc que oui. Les adultes et les enfants ont besoin de dessiner. C'est un droit de l'homme. Et ce qui est triste, c'est qu'on dit à tout le monde qu'il est soit bon, soit mauvais, et qu'il y a une sorte de norme. La norme est fixée par l'individu. Vous voyez, on ne dit pas aux gens « Vous ne devriez plus jamais parler parce que vous ne vous exprimez pas bien. » Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi devrait-on dire aux gens qu'ils ne peuvent pas dessiner? Parce qu'il y a une norme arbitraire, ridicule et généralement stupide. Non. C'est un mode d'expression unique et c'est une chose merveilleuse quand vous regardez votre propre expression unique et que vous dites « j'aime ça, j'aime ce que j'ai fait là » et vous ne comptez pas sur quelqu'un d'autre pour vous dire si c'est bon ou mauvais. Cela vous ressemble et vous savez que c'est bien. Nous faisons quelque chose, mon compagnon Kurt et moi, nous donnons des carnets de croquis à des enfants et nous le faisons en même temps que les fournitures scolaires. Nous avons reçu une petite dotation d'une femme merveilleuse qui s'appelle Annie Koyama. Elle nous a donné de l'argent. Et avec cet argent, nous avons investi dans des carnets de croquis et des stylos que nous distribuons maintenant. C'est juste l'idée que ces enfants puissent dessiner. C'est une petite chose, mais je pense que c'est important. J'apprécie vraiment que vous ayez soulevé ce point. Je vous remercie.
Le stylo bille, alors à la base, c'est vraiment le noir et le bleu avant tout. Et dans votre livre, on a le sentiment que le noir et blanc et la couleur jouent des rôles très précis. Est-ce que c'est aussi parce que l'époque que vous évoquez, les années 60, c'est aussi une époque où le noir et blanc est encore très présent à la télévision et dans la photographie?
C'est tout à fait vrai. Et quand vous aviez de la couleur, c'était sous la forme de couverture de magazine ou en allant au musée pour voir des peintures. C'est là que la couleur intervient dans mon livre. Il est important qu'Anka soit bleue, parce qu'elle représente cette partie douloureuse du passé avec laquelle nous avons vécu. Lorsque j'avais environ 7 ans, j'ai quitté Uptown pour aller vivre à Rogers Park. Et il y avait énormément de rescapés de l'Holocauste. Et ils étaient très bleus. Ils étaient hantés. La mémoire faisait partie intégrante de leur vie. D'une certaine manière, ils n'étaient pas complètement dans le monde de couleurs dans lequel nous étions. Ils étaient dans un autre monde fantôme. Elle devait donc représenter cette nature fantomatique. Et oui, vous avez raison. La couleur est un indice dans le livre pour différentes choses.
La dessinatrice Émile Ferris à propos de son roman graphique « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres ». Vous écoutez Quartier Livre sur RTS Première, émission consacrée à Émile Ferris aujourd'hui. Dans la suite de cet entretien, il sera question de peinture, de la façon de vaincre la peur et des dangers qui pèsent sur le vivre ensemble aux États-Unis. Tout cela à venir juste après une chanson de circonstance, « The Boogie Monster » du duo américain Gnarls Barkley. Voilà des images qui pourraient parler à notre invité du jour, la dessinatrice américaine Émile Ferris. C'était Gnarls Barkley dans Quartier Livre.
Si un cadavre dans le placard, trouve-le. Si on n'a pas, on en mettra un.
Quartier Livre.
Vous écoutez RTS Première, on poursuit cette rencontre avec l'autrice de cette colossale BD en deux tomes, Moi ce que j'aime c'est les monstres. Auparavant, Hélène, quelques mots sur les fondations de cette création. Émile Ferris est une miraculée et son œuvre emporte les stigmates.
Oui, absolument. On a évoqué la canne d'Émile Ferris, ce morceau de bois torsadé, peut-être du cerisier ou du poirier. Cette béquille, à la fois le vestige d'une tragédie et le témoignage de l'immense détermination de la dessinatrice. Mais commençons par le début. Si le travail d'Émile Ferris est centré autour de la ville de Chicago, c'est du Nouveau-Mexique qu'elle est originaire. En tout cas, sa mère, Eleanor Spies Ferris, elle-même artiste visuelle, qui s'inscrit dans les mouvements naturalistico-symbolico-féministico-surréalistes. Elle rencontre Mike Ferris, futur designer de jouets, alors qu'ils sont ensemble à l'Art Institute of Chicago. En 1962, année de leur mariage, un petit monstre naît qu'il baptise Émile. Les choses ne commencent pas très bien pour la petite fille. Les médecins annoncent qu'à cause d'une scoliose sévère, elle ne vivra pas au-delà de 30 ans. Arrivée à cet âge, Émile Ferris est pourtant encore vivante, mais 10 ans plus tard, l'immobilité vient la frapper à nouveau. Lors d'un voyage, elle se fait piquer par un moustique et contracte le virus du Nil occidental, dont elle développe la forme la plus grave, une méningo-encéphalite. À nouveau, le diagnostic est sans appel. Le corps médical lui annonce qu'elle ne marchera plus. C'est peut-être dans cette annonce fracassante que le germe de « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres » naît. Visiblement, il en faut plus pour mettre le titan à terre. Émile Ferris s'inscrit elle-même au Chicago Art Institute en fauteuil. Elle est la plus âgée de toutes et tous, mais ce qui attire encore plus l'attention, c'est le fait qu'elle scotche le stylo à sa main afin de pouvoir dessiner et obtenir, oui, obtenir son diplôme. « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres » et son tout premier récit publié dans l'Indifférence générale. Encore une fois, il en faut plus pour la déboulonner. Elle essuie 48 refus de maisons d'édition avant d'enfin trouver 6 ans plus tard un éditeur indépendant, Fantagraphics. La sortie est enfin prévue pour Halloween 2016, of course. Pourtant, les ennuis ne sont pas tout à fait terminés. Le transporteur des premiers exemplaires imprimés en Asie fait faillite et la sortie est encore repoussée pour la Saint-Valentin 2017. Alors pour quelqu'un qui aime tant les monstres, franchement, la fête des amoureux, ben c'est pas mal aussi.
Oui, et l'amour est un thème très important dans ses livres, le fantasme aussi, puisque tout au long des 2 volumes de ce roman graphique, on rencontre des couvertures imaginaires de magazines d'épouvante avec des monstres qui s'en prennent à de jeunes femmes hyper sexy. Ces magazines jalonnent le récit de vie de la narratrice Karen, et Émile Ferris nous explique le rôle de ces images au sein de son récit, des images qui fonctionnent au fond comme des miroirs ou des commentaires ponctuant l'action.
Je pense que ce sont de bons mots. Miroir, commentaire, ce sont les termes appropriés. C'est vraiment ce qu'ils sont. C'est vrai, et j'aime beaucoup les dessiner parce qu'il y en a tellement qui vivent dans ma tête. Je ne sais même pas comment elles me viennent à l'esprit. Parfois, j'ai juste envie de dessiner. En ce moment, je travaille sur un dessin qui est pour Blemmy. J'étais dans l'avion et j'ai commencé à travailler sur ce dessin. C'était drôle parce que, vous savez, je travaillais sur le dessin. Je vais juste vous le montrer. Et vous comprendrez ce que je vais vous dire. J'étais en train de travailler sur ce dessin et c'est sur Blemmy. Vous savez, on lui a coupé la tête. Je travaillais sur la couverture et la femme à côté de moi a mis 2 coussins entre nous. C'est un travail au cours, cette tête coupée. Elle flotte dans le ciel nocturne et parle peut-être. J'ai eu cette vision d'une tête coupée flottant dans le ciel nocturne. Imaginez que vous la voyez et qu'elle se mette à vous parler. À quoi cela ressemblerait-il ? Je veux dire, peut-être que vous hurleriez de peur, mais vous pourriez aussi dire « Cela m'interpelle. Cela ressemble à des cartes de tarot. Il y a peut-être une question que je peux poser à cette tête flottante. Je veux dire qu'elle a certainement des capacités que je n'ai pas, elle a des expériences que je n'ai pas. » Et je me suis dit « Eh bien, il y a un moment dans le livre sur lequel je travaille où Karen a des questions auxquelles elle ne peut pas répondre. » C'est pourquoi cette couverture particulière sera importante. Et je me rends compte que tu as raison, c'est un miroir, mais c'est aussi un commentaire. Ça vous aide à savoir ce qui va arriver. Ça le sédimente, en quelque sorte, dans une vision de l'horreur. Et il y a un point intéressant dans le livre sur lequel je travaille. C'est que l'horreur est en fait, dans mon esprit, une forme de catharsis. Ça nous prépare. Chaque fois que vous regardez un film et qu'il y a un élément d'horreur, vous n'éprouvez pas vraiment la même peur que si la chose vous arrivait réellement. Mais parce que nous sommes des créatures empathiques, nous avons une réaction de peur. Nous avons donc un petit avant-goût de la peur, mais nous savons qu'elle va se terminer de manière positive, parce que nous allons nous lever et fumer une cigarette ou boire un verre, ou aller au lit, ou parler à notre ami. Si nous sommes vraiment particulièrement affectés, peut-être, je ne sais pas, devrons-nous dormir avec notre voisin. Ça dépend du film, s'il est très effrayant. C'est en quelque sorte une préparation, c'est une façon d'apprendre à vivre la peur. Et nous en avons besoin. Et ceux d'entre nous qui aiment l'horreur ont peut-être anticipé la réalité de nos vies, à savoir que nous avons peut-être besoin de comprendre comment gérer la peur. Et nous avons besoin d'un peu de férocité. Nous avons besoin d'une réponse féroce à la question suivante. Que faire lorsque l'alerte est lancée au cœur de notre propre maison? Car clairement, en ce moment, aux États-Unis, l'alerte est au cœur de notre maison.
Dans toutes ces couvertures, on voit des monstres affreux qui s'attaquent à des jeunes femmes hyper sexy. Alors c'est le cliché du genre, mais c'est aussi, j'imagine, un reflet du désir qui naît en Karen, elle qui se rend compte qu'elle est attirée par les femmes.
Oui,
l'une des choses que j'aborde dans le livre que j'écris en ce moment, c'est qu'elle et son frère Deez ont un désaccord. Et ce désaccord tient au fait que Karen, dans son esprit, veut croire que ces monstres sont en fait en train de sauver ces femmes et de les emmener dans un endroit sûr. Et Deez, peut-être de manière plus réaliste, croit qu'ils vont s'imposer à ces femmes à leur manière monstrueuse, sans le consentement de ces femmes. Et c'est quelque chose que Karen rejette vraiment. Elle dit non, ils sont juste amoureux d'elle et ils vont les emmener loin des méchants villageois dans un endroit sûr. Je pense que c'est vraiment, vraiment drôle qu'ils voient les choses aussi différemment. Si je repense à mon enfance, je ne pouvais pas du tout m'identifier à la femme en pamoison qui avait, vous savez, de très gros seins, pour être franche, et une silhouette voluptueuse. Je ne pouvais pas m'identifier à cela. Mais je m'identifiais très clairement au monstre. Et je trouvais très intéressant qu'il désire vraiment cette femme. Et je me suis dit que cet être devait l'enlever pour la mettre en lieu sûr, parce que, vous savez, il est si difficile d'être une femme. J'ai vu la façon dont ma mère était traitée. Elle était très belle. Elle aurait pu être l'une de ces femmes enlevées par un monstre. Je me suis dit, il doit y avoir quelqu'un pour protéger les femmes. Je pense donc que mon conflit avec cela va s'exprimer dans ce livre. C'est intéressant que vous disiez cela parce que c'est certainement une partie du matériel à venir.
Est-ce que aussi dans le fait de dessiner ces femmes extrêmement voluptueuses, il y a un plaisir dans le trait? Parce que c'est tout dans des courbes, quelque part la main est d'une certaine manière libérée. Est-ce qu'il y a quelque chose de presque automatique dans ces courbes-là?
À
quelle profondeur cette question peut-elle aller? Je dois vous dire la vérité. Chaque fois que je dessine quelque chose, n'importe quelle forme, un monstre, un corps, une lampe, je le touche. Parce que la vérité, c'est que je n'ai pas marché avant l'âge de 3 ans. J'ai dessiné, c'était tout ce que je pouvais faire. Je ne pouvais pas marcher. Alors ma mère, qui était une artiste, m'asseyait, moi, le bébé qui ne marchait pas, dans le salon avec des stylos et du papier, et elle me laissait dessiner. Et comme je ne pouvais pas me lever pour aller vers quelque chose que j'aurais voulu toucher, parce que les enfants font toujours ça, au lieu de ça, j'ai préféré dessiner. J'ai dessiné cette chose et je suppose que je me suis sentie en train de la gommer, de la manipuler, de la tripoter et de me demander ce que ça fait. Maintenant, quand je dessine, j'ai une sensation dans mes mains, dans tout mon corps. Je ressens cette chose. Et donc oui, je veux dire, les contours du corps humain sont vraiment si beaux. Je les touche. Je touche le visage du monstre. Je sens le côté froid, je sens le côté chaud, je sens le clair de lune. Et j'imagine ce que c'est. Oui, j'imagine tout ça. Je pense que ça se retrouve dans les dessins. Mes sentiments sont dans les dessins. Et peut-être que c'est en partie ce qui les rend attrayants pour les gens. C'est ce qu'ils ressentent aussi. Mais je n'en suis pas sûre.
Alors, il y a ces magazines d'horreur, et puis il y a, au fil du livre aussi, les œuvres de l'Art Institute of Chicago, des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art, qui témoignent aussi de l'importance des monstres dans l'art classique. Cette juxtaposition entre la sous-culture et la haute culture, c'est aussi un message très fort de votre livre.
Oui, je me suis arrangée pour passer les trois derniers jours de ma visite ici à aller au Louvre et au musée d'Orsay et je l'espère au musée Gustave Moreau. Beaucoup de tableaux au Louvre me font cet effet. Mais quand je pense à quelqu'un comme Gustave Moreau, je regarde son travail et je me dis qu'il y a tellement d'aspects de son travail qui pourraient très bien figurer sur la couverture de n'importe quel magazine d'horreur. Et je sais que nous ne sommes pas censés voir les choses ainsi. Et pourtant, enfant déjà, je voyais les choses comme cela. J'ai toujours considéré que ces peintures étaient équivalentes aux couvertures. Et que les couvertures étaient souvent équivalentes aux peintures. Je ne voyais pas beaucoup de différence entre les deux. Je voyais qu'il s'agissait de la même monstruosité. J'appréciais ce rapprochement, je ne pouvais pas les distinguer. Et je n'arrive toujours pas à les séparer. Je pense qu'en tant qu'enfant, c'est ce qu'on fait. Mais vous savez, je défie quiconque de me dire que Gustave Moreau ne ferait pas un excellent illustrateur pour la couverture d'un magazine d'horreur.
Avec une tête qui flotte en l'air sur l'une des peintures les plus célèbres de Gustave Moreau.
Thank you. Thank you, exactly.
Merci, mais oui, tout à fait, exactement. Et qu'est-ce que cela nous dit? C'est vrai, nous voulons poser des questions à Salomé, nous voulons poser des questions à Saint-Jean-Baptiste. Je veux dire, il pourrait certainement y répondre. Oui, tout à fait.
Yeah, very much so. Yeah.
Vous venez de le dire, Émile Ferris, vous êtes ces quelques jours à Paris et vous allez dessiner au Louvre, comme vous l'avez fait à l'Art Institute de Chicago. Qu'est-ce que ce travail de reproduction des tableaux dans votre dessin vous apporte? Est-ce que là, par exemple, c'est essentiellement pour votre pratique, pour améliorer votre trait, ou c'est peut-être dans l'objectif de les inclure dans un livre?
Je pense que c'est tout cela à la fois. Mais il y a aussi cette chose étonnante que je découvre quand je copie une peinture, bien sûr, avec le plus grand respect. Pendant que je le fais, je parle à l'artiste qui, je pense, flotte quelque part au-dessus de ses peintures ou à proximité. Et je lui dis, vous êtes extraordinaire. J'adore ce que vous avez fait. Et j'apprends. Je reçois un enseignement. Comment avez-vous construit cela? Ces peintures ont une architecture, elles sont une fenêtre sur un monde. Il y a des histoires liées à chaque recoin de la peinture et il y a beaucoup de symbolisme dans ces tableaux. Ainsi, par exemple, l'une des peintures que je montre au Festival du Livre de Paris est ma transcription d'une peinture de Caillebotte qu'on peut voir à l'Art Institute de Chicago. J'y ai découvert que deux roues qui se croisent dans le coin gauche du tableau créent une vessie de poisson, vesica pisces. Et cette vessie est un symbole très important. C'est le symbole dans lequel vous verrez Jésus représenté, par exemple, dans l'église d'Angoulême. Il est à l'intérieur de la vessie. Il y a donc ce symbole dans cette peinture. Une fois que vous avez vu ce symbole, vous devez vous demander pourquoi il a été mis là. Bien, je crois qu'il l'a mis là parce qu'il voulait peindre le temps de la modernité. Nous ne regarderions pas la peinture en nous disant « Ah, voilà la modernité !» Mais c'est le cas. Ce sont des gens très dynamiques, très élégants, qui marchent dans une rue de Paris à l'apogée de la modernité de cette période. Paris avait connu de grandes transformations. On voit les bâtiments issus de cette reconstruction. Et le peintre nous indique que cette vessie de poisson est une façon de voyager dans cette modernité.
Into this modernity, like here's a symbol from ancient times.
C'est un symbole des temps anciens, et pourtant vous avez pu avancer grâce à lui, puisque ce sont des roues. Les roues vous ont donc permis d'entrer dans la modernité. C'est quelque chose que j'ai découvert en décortiquant le tableau et en le dessinant, ce qui m'a permis d'être un peu dans la tête de Caillebotte. Il n'était pas obligé de peindre ce tableau. Il l'a fait pour une raison. Rien dans un tableau n'est le fruit du hasard. Les peintres sont très précis et agissent délibérément. Ils racontent une histoire complète. Et le plaisir est de découvrir quelle est cette histoire.
Voilà comment Émile Ferris se fait aussi historienne de l'art au sein de cette BD Monde Monstre, reproduisant de façon virtuose de multiples peintures à travers les quelques 800 pages de son roman graphique « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres ».
Quand l'homme prend conscience de sa fragilité, et quand il prend conscience de sa laideur, car il est laid, l'homme est laid.
Alors il y a les monstres dans la peinture, il y en a en fait depuis toujours dans l'imaginaire de l'humanité et c'est ce que vous allez nous rappeler, Hélène Ichters, dans votre carte blanche.
Qu'est-ce qu'un monstre ? Parlons étymologie. Le mot nous vient du latin. Chez les Romains, monstrum appartient au lexique religieux et signifie un prodige qui avertit de la volonté des dieux. Monstrum est dérivé du verbe monere qui veut dire montrer, avertir. Jusque-là, rien de péjoratif ni d'effrayant, bien au contraire. Dans la mythologie, le monstre est une créature fantastique et symbolique dont au moins une moitié est d'origine divine. Exemple, le Minotaure, fruit de l'union subversive entre Pasiphaé, femme de Minos, et un taureau envoyé par Poséidon. Le truc totalement cauchemardesque. L'hydre de Lerne, autre monstre, est tout aussi infernal, un corps de chien et de multiples têtes de serpent qui repoussent à volonté. Élevée par Héra, elle est tuée par Héraclès dans ses célèbres travaux manuels. Mais plus l'humain comprend le monde, plus le monstre devient synonyme de mystère et d'énigme. Les continents inexplorés, les mers ou les océans sont des lieux privilégiés d'où naissent les fictions. Baleines, cachalots, poulpes géants se font monstres marins, assimilés à Charybde, Scylla et autres sirènes. Dans cette frontière entre réalité et storytelling, le monstre prend de nouveaux contours, ceux de la terreur. Car ce qu'on ne connaît pas, on le craint. Et ça vaut aussi pour les humains. Au XIXe siècle, la toute-puissance de la science veut expliquer, classer, décrire le monstre. Les foires les mettent en cage comme anomalie. La frontière n'est plus floue, mais bel et bien rigide. Le monstre est à la marge, il peuple les romans, puis les films. Le monstre peut être un humain inhumain, un freak. Et c'est rudement pratique de transposer certaines catégories d'humains dans la peau de monstres. Les juifs, les homosexuels, les sorcières. Émile Ferris aime les monstres. Et elle se dit elle-même sorcière d'ailleurs. Alors non, elle n'a pas de chapeau pointu ni de balai. À ce propos, saviez-vous que cet uniforme de la sorcière vient des brasseuses de bière ? Car oui, le brassage de la bière a été pendant des milliers d'années une affaire exclusivement féminine. C'est avec leur balai qu'elles mélangent le précieux liquide et c'est pour être immédiatement reconnues dans la foule des marchés qu'elles s'affublent d'un haut chapeau pointu. Brasseuse, un métier respecté autrefois et qui assurait à ses productrices une influence et un revenu important. Jusqu'à ce que des lois leur interdisent d'y toucher. Et oui, on n'allait pas laisser tout cet argent et ce pouvoir aux femmes quand même. Celui qui dit qui est et qui n'est pas un monstre possède un pouvoir incommensurable. Mais ce qui est bien, c'est que le vent tourne. Jusqu'à maintenant, c'était le modèle du héros mâle qui vient libérer la femelle des griffes du monstre qui a régné dans la pop culture. C'était Persée qui venait délivrer Andromède de cet abominable kraken. Mais désormais, des femmes comme Émile Ferris s'approprient l'horreur et l'épouvante, et c'est tout simplement merveilleux, et même parfois plus dérangeant, avec un véritable questionnement social. Allez un petit peu jeter un coup d'œil au génial film Babadook de Jennifer Kent, à A Girl Walks Home Alone at Night d'Anna Lily Amirpour. Refaites-vous American Psycho de Mary Harron, sans oublier The Substance de Coralie Farja. Oui, les femmes aiment l'horreur, et quand elles s'en emparent, elles se font les dignes héritières du Frankenstein de Mary Shelley, qui elle aussi utilisait l'épouvante et le fantastique pour questionner les limites d'une société qui va dans le mur. En fait, les monstres, c'est vachement utile au final.
Les monstres ou féminins, très bien vu Hélène. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe ces dernières années autour de cette thématique. Et évidemment, le travail d'Émile Ferris alimente à merveille cette culture du monstre, de l'épouvante vue par les femmes. On va retrouver la suite de cette interview avec Émile Ferris juste après cette chanson de Majo, chanteuse franco-suisse et sénégalaise. Voici Le Monstre sur RTS Première.
J'ai vu un monstre dans la rue qui se baladait nu. Il s'est fait arracher tous ses vêtements à force de rire bêtement. Sa tronche ne m'est jamais revenue car il mangeait tout ce qui était différent. Il ne reste plus beaucoup de temps, non, il se voit vraiment. Le roi de tous les tiroirs et les placards du royaume des fous. Les enfants en pleurent le soir, il faut refermer la porte derrière vous. Le monstre n'a pas de grande dents, non, juste des idées folles. Ouvrez la porte de vos mémoires et désinfectez tout. Oh, 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 n'oubliez jamais le monstre de vos histoires. N'oubliez jamais le monstre de vos cauchemars. Le roi de tous les tiroirs et les placards du royaume des fous. Les enfants en pleurent le soir, il faut refermer la porte derrière vous. Ah, 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 ah. Le roi de tous les tiroirs et les placards du royaume des fous. Les enfants en pleurent le soir, il faut refermer la porte derrière vous.
La chanteuse franco-suisse Majo avec Le Monstre.
Vous écoutez Quartier Livre sur RTS Première, émission consacrée à une longue interview que nous a accordée la dessinatrice américaine Émile Ferris, rencontrée au Festival du Livre de Paris il y a tout juste un mois. Émile Ferris, mondialement connue pour les deux tomes de son œuvre colossale « Moi ce que j'aime, c'est les monstres », paru en traduction française aux éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture. Un aspect très touchant du roman graphique d'Émile Ferris, c'est que sa narratrice, ce petit loup-garou du nom de Karen Reyes, s'intéresse aux autres. Pour les besoins de son enquête peut-être, puisqu'elle porte un imper beige et un chapeau mou digne de l'inspecteur Colombo, mais surtout parce qu'elle a une passion pour les histoires d'autrui, pour les destins des marginaux qu'elle croise sur sa route. Comme le récit est partiellement autobiographique, j'ai demandé à Émile Ferris si cette curiosité pour les gens était la sienne quand elle était enfant à Chicago.
Well, I don't. I know that if I felt that somebody had something.
Eh bien. Je sais que si je sentais que quelqu'un avait quelque chose à m'apprendre ou que je voulais apprendre de lui, je leur parlais. Je crois que j'avais un sixième sens quand il s'agissait de parler aux gens. Il y a des gens à qui j'ai parlé, par exemple, j'ai eu la chance de parler à des survivants de l'Holocauste. Je vivais dans une région où ils étaient nombreux et je voulais comprendre ce qui leur était arrivé. Même si souvent, il ne leur était pas possible d'être explicite. J'ai compris qu'ils étaient dans un état de douleur qui ne disparaissait pas. Rien que cela, c'était une information dont j'avais besoin en tant qu'enfant. Savoir qu'il existait des choses si terribles qu'il serait impossible de passer à autre chose, qu'il n'y aurait pas d'échappatoire possible. Jamais.
That was sobering reality.
C'était une réalité qui donnait à réfléchir. Il en allait de même lorsque je parlais aux gens de leur expérience. Je connaissais une femme qui était la mère de ma très bonne amie et son mari avait décidé de retourner en Oklahoma. Il était noir. Elle m'a dit qu'elle ne retournerait jamais en Oklahoma et que les gens là-bas n'aimaient pas les Noirs. C'était à l'époque. C'est ce qu'elle ressentait. Cela donnait à réfléchir, et ça signifiait qu'elle avait vécu tellement d'horreurs qu'elle ne pouvait pas y retourner. Oui, j'ai parlé à des gens, et ils m'ont dit des choses. Mon compagnon, Kurt, dit que les gens me racontent volontiers des choses, des secrets. Et je pense que c'est peut-être vrai. Une fois, je suis montée dans un train, j'étais avec ma fille dans un train aux États-Unis, Amtrak. Ils vous font asseoir par quatre. Si vous êtes deux, ils vous font asseoir avec deux inconnus. Ils m'ont fait asseoir avec deux personnes. Il s'agissait d'un homme âgé, de sa femme. Nous avons discuté et je lui ai posé des questions. Il m'a dit qu'il était militaire. Je lui ai demandé où il avait été enrôlé. Je ne l'ai pas posé de questions. Il a fini par me dire qu'il avait été enrôlé en Alaska. Et il m'a raconté qu'un jour, il était monté sur un rocher et qu'il s'était assis là pendant un moment pour regarder autour de lui et qu'il avait vu un ours Kodiak. C'était une créature très grande et effrayante. Elle ne le menaçait pas du tout. Mais il l'a abattu. Il a dit que c'était la plus belle créature qu'il avait jamais vue de sa vie. Cet homme de 70 ans s'est mis à pleurer. Il a dit qu'il n'avait jamais pleuré auparavant. Mais qu'il se rendait compte que toute sa vie, il avait été terriblement triste de l'avoir fait. J'ai posé ma main sur la sienne, nous sommes restés assis très longtemps, et je me suis dit que je lui avais peut-être parlé parce qu'il était temps pour lui de pleurer pour cela, et qu'il pouvait aller de l'avant maintenant après avoir pleuré pour cela, après avoir considéré cela comme un échec dans sa vie, et qu'il en avait appris quelque chose. Nous sommes ici pour apprendre, c'est une école pour les âmes. Nous sommes ici pour commettre des erreurs tragiques, c'est terrible. Nous sommes ici pour commettre des erreurs tragiques qui nous constituent et en parler. J'ai fait tellement d'erreurs dans ma vie, je pense que les gens lisent mon livre et se rendent compte que cela leur donne peut-être un peu de courage parce qu'ils se disent « Cette femme a fait tellement d'erreurs et c'est tellement évident dans son livre et dans sa vie, c'est peut-être la première chose que j'ai faite qui a été un succès, pour être honnête. » Et c'est peut-être bien ainsi.
Karen se sent elle-même un monstre, vous la représentez en mini loup-garou, et beaucoup de gens qu'elle rencontre sont comme elle, des marginaux, des prostituées, des sans-abri, des homosexuels, des artistes, des minorités racisées, toute une population américaine que la classe politique aujourd'hui considère de toute évidence aussi comme des monstres. Votre livre parle des années 60, mais il nous parle peut-être encore plus de l'ère Trump.
Well, you know, I'm very sad.
Vous savez, je suis très triste de la façon dont on nous a appris à avoir peur. Malheureusement, il semble que ce soit le cas. Vous savez, c'est drôle quand je vous parle, alors que j'aime l'horreur autant que je l'aime. Et j'aime l'horreur, mais je voudrais vraiment mettre les gens au défi d'examiner les façons dont ils ont peur. Et de se demander si ce qui déclenche leur peur est naturel. Aussi, on leur a appris à avoir peur parce que cela sert des intérêts supérieurs. Il n'est pas utile de craindre des personnes qui souffrent elles-mêmes. Cela n'amènera personne là où il veut aller. Je comprends parfaitement l'idée que, et je crois que si nous nous rassemblons, nous découvrirons que nous voulons tous les mêmes choses. Nous constaterons que nous voulons que nos enfants bénéficient d'une excellente éducation. Nous constaterons que nous voulons vivre dans un endroit sûr. Et nous constaterons que nous voulons manger des aliments qui font du bien à notre organisme. Je pense qu'en fin de compte, tout le monde sera d'accord sur certaines choses fondamentales. Enfin, je l'espère. Et ce que je pense, c'est que c'est peut-être une occasion pour les gens de considérer ce qu'ils pensent pouvoir les aider à surmonter leur peur et de découvrir qu'en fait, ces choses n'aident pas à surmonter leur peur. Leur peur ne va pas cesser simplement parce que des gens sont déportés en raison de leur opinion. Ça ne les aide pas à effacer leur peur, parce qu'en fin de compte, ils pourraient se retrouver eux-mêmes à avoir une opinion qui n'est pas admise par un groupe et ils seront déportés. Ou leurs enfants seront déportés. Je veux dire que ce sont des questions que les gens doivent se poser. Il existe certaines soupapes, des choses comme le week-end. C'est un concept fantastique. Les gens se sont beaucoup battus pour que le week-end existe. Ils se sont battus avec acharnement pour obtenir une journée de travail de 8 heures. Il s'agit là de besoins humains fondamentaux. Et ils ne savent peut-être pas. Nombreux sont ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la manière dont ces choses ont été obtenues. Mais des gens sont morts pour avoir ces choses. Ils sont morts pour que leurs enfants ne soient pas obligés d'aller dans une usine et de perdre leurs droits, leurs doigts et leurs bras. Ils sont morts pour ce qu'il y ait un filet de sécurité. La sécurité sociale, aussi pauvre soit-elle, est un filet de sécurité. Ils sont morts pour obtenir ces avancées, ils sont morts pour les avoir. Peut-être qu'il serait bon d'être sensibilisé à la valeur de ces choses et que nous décidions de les conserver. Mais je n'en suis pas certaine.
Je me demandais justement si, dans cette perspective, vos livres avaient aussi un effet cathartique, c'est-à-dire que, de même que des minorités opprimées retournent le stigmate et font une fierté de la façon dont on les insulte, peut-être que votre livre est une façon de mettre en lumière la fierté des monstres que nous sommes tous.
Eh bien, je pense qu'il y a probablement une certaine fierté dans cela. On nous apprend à tout faire, et je pense qu'on nous apprend faux. Et c'est vraiment difficile à dire parce que le concept de la sorcière est une conception tellement négative. Je comprends cela. Je comprends que beaucoup de gens considèrent cela comme anti-chrétien ou anti-religieux d'une certaine manière. Mais je ne vois pas les choses comme ça. Je pense que tous les gens, tous les écrivains créent des sortilèges. Les mots n'ont pas de poids, ils sont juste là. Et pourtant, ils sont incroyablement puissants. Ainsi, ce sortilège que nous créons en utilisant des mots, des images, va créer un monde à l'intérieur des autres. On nous apprend que c'est mal, mais je ne pense pas que ce soit mal. Je pense qu'il nous incombe d'imaginer quelque chose de mieux que ce que nous avons. Et c'est ce que je veux. Même si j'ai raconté cette histoire où les choses ne sont pas meilleures dans ce monde, mais on m'a raconté l'histoire de personnes que l'on pourrait qualifier de pauvres, que l'on pourrait considérer comme inférieures, mais qui ont des vies antérieures, riches, pleines de la joie d'être ici, et qui ont quelque chose de très grand à offrir dans le monde au-delà d'elles-mêmes.
Merci Émile Ferris. Merci de nous avoir accordé cette interview à Paris. Deuxième tome de Moi, ce que je préfère, c'est les monstres, est paru fin 2024 aux éditions Toussaint L'Ouverture et on se réjouit de découvrir la suite.
Thank you very much.
Je vous remercie de votre attention. Maintenant, je vais, vous savez, en tant que Chicagoan, je vais massacrer un peu votre langue, mais je veux dire, comment dit-on ? Merci de m'avoir donné cette chance de vous parler.
Merci de m'avoir donné la chance de vous parler.
Ok, je peux aller jusque-là.
Merci.
Merci.
Beautiful.
That's as much as I've got for you. Merci. Merci. Merci.
Et c'est ainsi qu'on prend congé de la généreuse et passionnante Émile Ferris, autrice américaine dont les deux tomes du roman graphique « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres » sont aujourd'hui réunis dans un coffret avec un petit cahier bonus, vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies. Il est publié par les éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture. Inutile de dire qu'on vous le recommande chaudement.
Trafic RTS. Quelle que soit votre direction, soyez très prudents si vous circulez sur l'autoroute Yverdon-Genève, car des piétons sont signalés entre Lausanne-Crissier et Morges-Est. Je répète, quelle que soit votre direction, soyez très prudents si vous circulez sur l'autoroute Yverdon-Genève, car des piétons sont signalés entre Lausanne-Crissier et Morges-Est.
Avec RTS Première.
Il est 6h. Les informations.